11e, donc juste la place derrière, un match important à prendre. Ensuite, on passe en prénat la division juste en dessous. Donc on a eu le week-end dernier notre choc dans la poule A entre Marny qui recevait Gouvieux. Donc Marny était à 3 défaites en autant de matchs et Gouvieux à 3 victoires en autant de matchs. Et surprise, car Marny à domicile a gagné 74-71. Donc Gouvieux sont à 3-1 et Marny sont à 1-3. Donc Gouvieux est 4e, Marny 10e. Et ce week-end, pareil, si vous avez rien à faire, Gouvieux joue à domicile contre Amiens, qui est un gros choc car ils sont 3e. Dans l'autre poule, Crépy est 7e avec 2 victoires et 2 défaites. Là, ils sortent d'une grosse défaite à Liévin contre la réserve de Liévin. Ils ont perdu de 26 points, ça fait un peu beaucoup. Et Crépy, pareil, joue à domicile ce week-end à 20h30, qui reçoivent Béthune 4e. Côté fille, pareil en prénat, donc il n'y a pas eu de match depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et par contre, il y a la reprise ce week-end avec les deux équipes. Donc Compiègne joue à domicile et Lacroix joue à l'extérieur. Les deux sont toujours à 2 victoires et 2 défaites. Lacroix 5e, Compiègne 6e. Et on essaye de noter, si vous aimez le basket féminin, dimanche prochain, donc le 16 novembre à 14h dans la salle Rossinang à Lacroix, il y a le derby du Compiègnois. Lacroix recevra le stade Compiègnois. Donc chacun aura joué un match de plus. Et on se rejoint pour le derby dimanche prochain. Ça à marche. 14h, vraiment important à 14h. Venez nombreux à la Croix.
C'est noté. Allez, on enchaîne sur la rubrique suivante. On va parler des matchs de la nuit.
Waiters back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Bank it in. It counts. It counts. The Heat win the game. Dwayne Wade won it for Miami. 126-125. It just happened.
Alors, messieurs, on a eu un petit problème technique visiblement au début d'émission, donc désolé pour... Voilà, vous avez dû récupérer monétairement alors qu'on avait lancé le début. Vous avez raté une superbe intro, c'est très grave. On vous la refera un peu plus tard. De toute façon, du coup, ça me fait des choses à écrire en moins pour les prochaines émissions. Voilà. On passe tout au résultat de la nuit et on va aborder... Alors, il n'y avait pas de très très grosses affiches, hormis celles dont on a parlé tout à l'heure. On va commencer par le Raptors Bucks qui a accouché d'une belle fessée. Yanis a pris une tôle, un 28 points d'écart.
Après, ils étaient en back-to-back. Hein, les Milwaukee ouais. avaient joué la veille. Ils sont arrivés et dès le premier quart-temps, ils ont eu du mal à se mettre dedans. Ils ont pris 20 points vite et ils ne les ont jamais repris.
En tout cas, Toronto fait un début de saison plutôt sympa. Leur Big Three, entre Ingram, Barrett et Scottie Barnes, tourne plutôt pas mal. Ça manque de profondeur, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non?
Ouais, puis c'est agréable à voir jouer, en plus. Ça se passe là-bas. Non, c'est vraiment bien, Toronto. Alors, la conférence S, c'est tellement le bazar là, en cette début d'année où, où les favoris sont au fond, ceux qu'on voyait pas, ils sont devant.
Alors justement, incroyable. T'avais un petit Hawks Magic là, qui normalement a dû être un duel de haut de tableau. Ouais. Finalement, le Magic tous, les Hawks. On ne peut pas dire qu'ils soient super, super intéressants depuis le début de saison. 127-112 pour les Hawks, avec un Zachary Risacher quand même à 21 points, dont 16 en première mi-temps. Le Magic est inconstant, le Magic défend plus surtout.
Desmond Bane, il est catastrophique sur ce début de saison. Là, il est transparent, il ne trouve pas de rythme, il ne trouve pas son jeu.
Ce qu'il a fait cette nuit, là, la faute.
Il a pris une faute flagrante.
On voit qu'il n'est pas dans son assiette, il n'est pas dans son truc.
Ah, il a la tête.
C'est pas le même joueur qu'à Memphis. Hein.
Pourtant, Orlando, c'était quand même.
C'était quelques garanties. Pour lui, hein.
Ouais, donc. Après, il faut le temps.
Non, mais il y avait le poste derrière. Oui, il y avait le poste derrière qui était complètement creux à Orlando. Il arrive là, tu te dis que ça va amener une plus-value. Et il gagne pas un match, Orlando. C'est un truc de. Je crois qu'ils sont à 2 victoires, 5 défaites.
C'est pas bon du tout. En tout cas, ça fait les affaires d'autres clubs. Et notamment, voilà. Bulls, Sixers affiche au sommet de la conférence Est. Victoire. Très étriqué des Bulls qui font un super comeback, qui l'emportent finalement 113-111.
24 points, il remonte.
Ouais, fou. Hein.
Mais Josh Giddey, il est incroyable. Je te dis, il fait deux triple-doubles avec plus de 20 points. Il mène tout et sur sa dernière action, il y a Embiid qui sort dessus. Il arrive à se décaler, faire la passe au Vooch. pas à 3 points, tu prends le match, tu prends le match de 2 points, alors que tu avais 24 de retard. C'est...
Non. Alors c'est marrant ça, Chicago.
C'est beau avoir joué.
Ils ont hésité à lui signer un bon contrat, hein. Ça a duré un peu tout l'été avec Josh Giddey.
Ils l'ont signé finalement.
Derrière Vucevic qui était annoncé partant depuis 25 ans.
Il reste. Voilà. Ouais.
Finalement il reste. Et ces Bulls-là, alors, est-ce qu'ils tiendront à distance, c'est autre chose. On peut pas aussi les Sixers qui sont emmenés. On a l'impression que les Sixers, ils ont décidé. Ils sont passés à autre chose avec Embiid. Je sais pas si vous avez cette impression-là.
Et c'est Maxi. Embiid est passé à autre chose aussi.
Je pense qu'il commence à se rendre compte que ça tient plus, quoi. Physiquement, il est.
Il est plus.
Il joue entre 20 et 25 minutes par match. En fait, ça lui va. Alors il râle parce qu'il trouve qu'il joue pas assez. Mais moi, je trouve que quand il est sur le terrain, ça marche bien. Après, ils ont joué les Hornets avec un pivot qui court, Diabaté. Il lui a mis la misère parce que dès qu'il tombe sur un pivot qui court, et surtout un pivot qui sait un peu s'écarter. Il a eu du mal avec le Vooch. Pourquoi cette nuit? Parce que Vooch, il s'écarte, il a un shoot très sûr à 3 points. Ah oui. Et Embiid, il ne peut pas aller le chercher à 3 points. En fait, il faut qu'il arrive à jouer contre.
Et il va de moins en moins au contact aussi. Hein. Les rebonds, toi, cette nuit, il ne prend que 6 rebonds.
Oui, c'est vrai.
Tu sens qu'il va moins au contact, qu'il est un peu plus.
Mais on a surtout aussi l'impression que Maxi, Oubre Junior et Vidjiedjkombe.
Ils ont pris le pouvoir.
Ouais, il est très très bon, Vidjiedjkombe, pour l'instant.
Ah, quand il y a Paul George qui va revenir, ça va.
Paul Hou, ça va tout changer. Paul Hou,
quand on parlait de rookie, ouais.
Là, ils vont recommencer.
Ils en ont plus besoin. Hein.
Non, mais rookie de l'année, on parlait de tout le monde attendait.
Cooper Flagg.
Nous, on avait dit Ace Billy, mais.
Ace Billy, on le voit pas. Ouais, il est blessé, je crois, un peu.
Ah ouais, c'est pas terrible. Mais Edgecombe, il a une carte à jouer. Il y en a quelques-uns qui ont une carte. Même Dylan Harper.
Allez, en double
Cooper Flagg, je te dis, il est surexposé, mais bon.
Il joue pas son poste, quoi. Il joue meneur, il se retrouve
à meneur. Il faut le temps d'adaptation. On passe au dernier match, c'était certainement la plus belle affiche présumée, le Clippers Thunder, mais là aussi, le Thunder a fait respecter la loi. Hein. 8e victoire de suite pour commencer la saison. Le Thunder fait peur, rarement au complet depuis le début de saison, pourtant ce Thunder, même si c'était aussi le cas des Clips cette nuit. La machine à broyer tourne bien, il y a de l'huile dans le moteur. Et,
Kawhi ne jouait pas cette nuit. Hein.
Non, il ne jouait pas.
C'est en back-to-back et du coup, il ne fait pas les back-to-back Kawhi. Donc moi je pense franchement que ça y est, les gens ils voient arriver le Thunder à la maison ou à l'extérieur, on repose les stars, quoi. ils savent que le match il est perdu. Et encore, ils ont quand même attendu 3 cartons avant vraiment de faire le trou, parce qu'à la mi-temps je crois qu'il n'y a que 2 points. Et il y a eu un trou d'air côté Clippers là, à la fin du troisième, au début du
zéro,
quatrième.
Là, début quatrième, prénom zéro.
C'est... Ouais. Et en fait, contre les Thunder, c'est exactement ça. Ils attendent que tu aies un trou et après ils t'éclatent, ils te mettent les 15 points et puis le match il est terminé.
C'est ce qui est pas mal là dans la nuit, c'est tu vois, la comparaison entre Guidi et Caruso, qui ont été quand même échangés. Mm-hmm. Et tu te dis que les deux ont quand même trouvé.
C'est un win-win.
C'est un win-win.
Ouais, c'est clair. Ouais. Ça fait pas comme certains. Certains moves.
Ok.
C'est perdant-perdant.
Il est temps de passer, laisser la parole à notre spécialiste de l'Euroleague, Baptiste, pour sa rubrique Neuroleague. C'est parti. Alors, petit Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'était plutôt calme, dis-moi.
Ils n'ont pas encore joué cette semaine. Pas de match pour l'instant. Je crois que ça démarre ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Pas grand-chose, malheureusement. Un peu triste cette année, je trouve, l'Euroleague. On a, on va dire, Fenerbahçe qui ne tient pas du tout la route pour l'instant, qui est complètement à la ramasse.
Ça, ils ont fait quoi le dernier match?
Oui, voilà, ils en prennent quasiment 30 au Real.
Ouais, ça fait mal, hein.
Ouais. En mettant que 58 points.
Ouais.
Bon, pour une équipe qui est tenante du titre de l'Euroleague,
comme la
ça fait pas sérieux. Quoi.
Non, après, bonne surprise. Moi, je trouve que voilà, les bonnes surprises, c'est un peu Monaco qui a quand même enchaîné la semaine dernière 2 matchs contre les Grecs. Hein, l'Olympiakos, c'est un contre le Pana à la maison. Ils gagnent les deux.
C'est fort, ça.
Voilà, c'était pas évident. Il fallait quand même réussir à les gagner là-haut en Grèce.
C'est clair, jamais.
Ils ont bien recruté quand même.
Ouais, le truc, c'est qu'ils ont vraiment cette année, ils ont une équipe où ils ont du banc. Ils ont, voilà, ça tourne pas mal, ça. Ça apporte pas mal du banc aussi. Donc ça
dans tous les secteurs, en plus.
Ouais. Ah, et puis ils ont un gars qui met des points, quand même. Ça aide bien.
Qui?
Mike James.
Mike James. Ouais, mais le retour de Mike James, ça fait du bien aussi.
Oui, bien sûr.
Et l'ailier, là...
Alpha Diallo?
Non.
Celui qu'ils ont recruté,
Okobo,
le dernier.
Pas Okobo? Non, Okobo, les meneurs.
Ah, le mec de Paris?
Non, ça, c'est Ace. Ace, c'est un intérieur.
Ailier, Diallo, Ace.
Non, c'est...
Bégarin.
Bon, tant pis, on va le retrouver, on vous dira. Ok.
Mirotić.
Voilà,
Mirotić.
Ah, Mirotić. Ah, Mirotić, oui, oui, oui. Ouais. Pas tout jeune, mais alors, diablement efficace, le mec. Hein.
Mirotić.
Oui, bien sûr.
Donc, ouais, pour l'instant, là, on va dire que le classement est dominé par toujours Zalgiris, Étoile Rouge et Hapoël Tel Aviv, avec 6 victoires et 2 défaites. Après, derrière, ça se regroupe avec un groupe avec Monaco, où ils sont à 5-3, je crois qu'il y a 5 ou 6 équipes. Et après, le ventre mou avec des équipes à 4 victoires et 4 défaites, dont Paris Basket.
Dont Paris, ouais, Paris c'est
ouais,
un peu dur.
Paris Basket qui est un peu dur aussi. Un peu dans...
Bien commencé, mais...
Ils sont capables du... C'est pareil, ils sont capables d'aller gagner contre des grosses équipes et de perdre contre... je crois qu'ils avaient perdu contre Milan ou contre...
Oui, contre Milan.
C'est ça.
Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai que ça fait...
C'est pareil, j'ai rien contre Milan, mais bon, contre Istanbul, mais Milan, d'un point...
En fait, je ne sais pas si vous avez cette impression-là aussi. Enfin, si tu partages le point de vue, j'ai l'impression que cette année, en Euroleague, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Et que tu peux enchaîner 2-3 victoires et 2-3 défaites derrière et que tu peux te faire taper par une équipe qui est 21e.
Ouais, c'est ça.
Sans, voilà, que c'est, bon, c'est bien, ça veut dire que la ligue est homogène, quoi, mais clairement. Ouais.
Donc là, c'est quoi le classement? Je crois que c'est dernier. On est dernier sur Asvel.
Ouais, Asvel.
Ouais, ils ont lâché la tempête.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais, ils ont lâché Maccabi, Baskonia, Asvel.
17, c'est qui? Olympiakos.
Ouais.
Ils ont lâché la. Non, Milan, c'est bien dommage, moi, ouais. Je trouve.
Parce que, ouais, c'est toujours reste... important. En plus, même pour faire progresser tes joueurs.
Ça reste un peu la vitrine, tu vois. Ça reste la vitrine. C'est l'image de l'Europe. C'est...
Ah oui, bien sûr.
Après, tu lâches une compète comme ça.
C'est là que tu vois que l'annonce de NBA Europe déstabilise.
Oui, c'est ça.
Ah oui, ça a déstabilisé le truc.
Voilà, l'édifice. Ok, c'est bon.
Pour moi, c'est bon. Après, okay. Si vous voulez un petit mot sur la Betclic.
Ah oui, comme. Ah
ouais, vas-y,
alors. Allez. Monaco domine le classement avec Le Mans, qui est encore là cette année. L'année dernière, ils avaient gagné la Leaders Cup, je crois. Ils sont toujours là, ils sont dans le bon wagon. 5 victoires, 1 défaite. Derrière, on a Paris Basket, Cholet, l'Asvel, qui suivent un peu le mouvement. Voilà, ça, je trouve que ça joue bien. Par contre, le Betclic Saint-Quentin, sont avant-dernier. C'est compliqué. Ah, Julien Maillet est revenu mettre une petite fessée à Saint-Quentin.
Ça doit être bizarre hein, quand t'es coach, tu reviens et t'as une tribune à ton nom. C'est,
Non, Nanterre tourne bien cette année aussi. Dosu Yovo fait une bonne saison. Ouais, non, c'est intéressant. Moi, je suis allé même m'amuser à aller voir un match de, comment vous dites, Wonder...
la Boulangère Wonder League.
La Boulangère.
Et ben, franchement, j'ai vu un super match de basket. Comme quoi, on a du super basket.
T'es allé où,
France.
À Villeneuve-d'Ascq?
J'allais voir Villeneuve-d'Ascq-Bourges.
Ouais. Ils sont un peu plus compétitifs, Villeneuve-d'Ascq.
Villeneuve-d'Ascq sont très compétitifs.
Ouais, parce qu'l'année dernière,
ils ont eu une année où ils ont eu un trou, mais là, ils ont bien reconstruit toute l'équipe, franchement. Mais si vous avez un peu de temps, allez dans les salles en France. On a quand même du beau basket français, que ce soit en féminin ou en garçon. Donc voilà.
Ok, c'est parti. Alors, on va enchaîner avec, avant la pause, une petite chronique que vous connaissez, le Basket Ewan, qui raconte l'histoire d'un basketteur lambda. C'est parti. Aujourd'hui dans le Basket Ewan sera Magic Tragedy. Les premières finales NBA que j'ai découvertes se sont déroulées en 91. Je n'ai vu que 2 matchs, c'était très compliqué à l'époque, mais j'ai pu assister à la naissance de la dynastie des Bulls portée par un extraterrestre ou un super-héros, je ne savais pas trop, du nom de Jordan, Michael de son prénom. Donc lors de la campagne pour ce premier titre qui en appellerait 5 autres, son adversaire en finale était une autre légende, Magic Johnson. Les Bulls s'imposèrent sans qu'il y ait trop de débats et la défense de Scottie Pippen s'avéra décisive sur le rendement de l'immense chef d'orchestre des Lakers. Alors Magic Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un meneur de jeu de très grande taille, capable de tout faire sur un terrain. Magic avait régalé auparavant une décennie de NBA de ses passes aveugles. En loisir, nous, on réalise plutôt des passes d'aveugles. Et il y a une grosse nuance. Et Magic fut l'un des seuls joueurs de l'histoire, vraiment, réellement capable de jouer à tous les postes. Le 16 mai 1980, en finale NBA contre les Sixers, alors qu'il n'est que rookie, hein, le gars, il lâche la ligne de stats la plus dingue de l'histoire des finales. Pour conduire les Lakers au titre, écoutez bien, 42 points, 15 rebonds, 7 passes et 3 interceptions en jouant au poste de pivot, qui n'était pas le sien, pour remplacer l'immense Kareem Abdul-Jabbar blessé. Ça a annoncé la couleur, on va dire. Quelques mois après cette défaite contre les Bulls, dont je reviens en 1991, alors que j'étais décidé à suivre ma première saison régulière NBA, le 7 novembre 1991, il y a donc 34 ans quasi jour pour jour, le monde apprenait brutalement que Ervin Magic Johnson mettait fin à sa carrière à 32 ans, au sommet de son art, après avoir annoncé en conférence de presse qu'il avait contracté le VIH, le sida pour faire simple. Alors, tremblement de terre en NBA, mais plus généralement dans le sport et dans la société. Hein, je me souviens de l'annonce aux infos à l'époque. Enfin, justement, à cette époque, on pensait que le sida était une maladie circonscrite aux homosexuels et aux toxicomanes. Magic n'était pas à la connaissance du grand public toxicomane, hein, à la différence de certains joueurs de son époque, comme Roy Tarpley, plusieurs joueurs NBA. Hein, d'ailleurs, Jordan l'a dit, hein, à cette époque-là, il y avait de la coque dans les vestiaires, hein, clairement. Il n'était pas, a priori. Par contre, il aimait les femmes, sans doute trop, au point de multiplier les partenaires dans des parties de jambes en l'air que n'aurait pas renié Giscard. Son sourire aussi connu que celui de Mona Lisa faisait facilement chavirer les cœurs, hein, du public et des femmes. Son aura et aussi certainement son portefeuille faisaient le reste. Magic Johnson séropositif à l'époque, ça a eu plusieurs conséquences. Alors, sur le plan purement sportif, les Lakers sont devenus une équipe quelconque, privée de celui dont beaucoup, dont moi, pensent qu'il restera le meilleur meneur de jeu au sens strict, hein, de tous les temps. Il y aura peut-être débat, mais moi je pense vraiment. Sur le plan sociétal, ensuite, les gens ont découvert que n'importe qui, y compris les athlètes, ces surhommes, pouvaient choper cette saloperie de maladie, qui en des temps qui paraissent à tort lointains, terrorisa ma génération, la vôtre aussi, je pense, les gars, et fit de la sexualité un terrain miné pour des années de plomb, pendant quelques années. Ce qui marqua le pré-adolescent que j'étais alors, ce fut aussi le All-Star Game de 92. Quand ce match avait encore un intérêt, où Magic fut invité malgré sa retraite anticipée et dont il remporta le trophée de MVP. À cette occasion, un des grands joueurs qui était Jordan ou Larry Bird, son plus grand rival au cours des années 80, saluèrent ce bref retour et rendirent hommage à son talent hors norme. Mais je me souviens aussi de Karl Malone, troisième meilleur scoreur de toute l'histoire, qui confia publiquement sa crainte de prendre part à un match aux côtés d'une personne atteinte par le VIH, évoquant des risques en réalité fantasmagoriques de contamination par une plaie ou par la sueur. Alors sans doute plus par bêtise et par ignorance. Hein,
oui, c'est plus de l'ignorance.
Oui, enfin, même si Karl Malone...
Karl Malone n'est pas connu pour son intelligence.
Oui, voilà, exactement. Bah, The Main Man, le facteur, comme on le surnommait, ne fut pas le seul à décrier un hypothétique retour de Magic. On se souvient de Gerald Wilkins aussi, qui voulait pas, qui n'était pas trop chaud pour qu'il revienne. Mais là où l'histoire est belle, c'est qu'en 96, Magic annonça son comeback. En excellente santé, mais lesté de 15 kilos, il prendra part à la deuxième partie de saison des Lakers pour une vraie tournée d'adieu et permettre au public de profiter une dernière fois de son génie et de ce sourire légendaire. Le miracle se prolongera même après sa retraite définitive, quand on apprit qu'au bénéfice d'un métabolisme hors norme, et accessoirement de nouveaux traitements disponibles, le virus du VIH était devenu indétectable dans son organisme. Devenu milliardaire, le sourire et l'influence de Magic ont continué à faire perdurer la Magic Johnson. Les tragédies et les happy ends, c'est une spécialité des Lakers. Ça fait intégralement partie du spectacle ou de la tragédie. De ce jour où Magic a ému la planète à celui où Kobe et sa fille ont brutalement disparu, du traumatisme sportif du transfert de Doncic à l'improbable présence sur un même terrain de Papa LeBron et de son fils Bronny, il n'y a que les Los Angeles Lakers pour avoir fait à ce point du spectacle qu'est la NBA un grand théâtre où ce rire mêle, où se mêlent pardon, larmes et rires, et rendre cette ligue tellement unique qu'on aime ou pas le Purple and Gold. C'est parti, le temps d'une pause musicale.
Here's the Lakers anthem. That's right, it's Mr. Capone, and it's that Lakers anthem for the summertime. Get your purple and gold, and let's ride. Woo-hoo! Stand up!
2009,
we want the trophy in L.A. It's the Lakers anthem, and no one's in our way. Pass the torch, back to Phil Jackson, Mitch Kupchak. Get ready for the champagne, Kobe Bryant. He's the MVP. Crossover, you better break free. Competition, please. You don't want to get checked. Watch out for the three-pointer from Booty Jack. Respect the West, and we came to ball. We got Echo and Espanol. Paul Gasol, standing tall. Showtime, and show him. Grabbing a rebound is Lamar Odom. Holding him down like Magic did Bird. We got the veteran Derek Fisher, so you're gonna get served. Never stirred, cause we on top of this. Another bucket from that Lakers click.
Jefferson blocked away by Gasol. They had a couple blocks last game.
Here's the Lakers anthem. is the Lakers anthem.
Bar jumping it. House got it. He got me one.
Is the Lakers anthem.
Answer. Trying to get inside.
Is the Lakers anthem. So keep on clapping. I keep on rapping till we win the championships. Yeah, we don't stop. Bring out the bench and get swatted by the boss. Walton's balling. Ariza's off the injured fella. Tour the farmers too quick. Too strong in Mobanga. Agenda is the parade. The purple and gold. We love LA. Jack Nicholson and all the stars for paper. Support of the Lakers live at the Staples Center. Jerry Buss is calling. LeBron, bring it on. Cause we keep on balling. Don't ever call for leave. Clover could take a title. LA, Boston, Boston, LA. Survival of the best, it's the rally cry. Mr. Capone, your homie, and it's Lakers.
It's the Lakers anthem. Switching, hug us all from Kobe. Taps it out.
It's the Lakers anthem.
It'll pay off. Kobe has Chalmers.
It's the Lakers anthem.
Contested three and go to the line looking for the 4-point play.
It's the Lakers anthem.
Doesn't make any difference that time.
That's right.
It's the Lakers anthem.
Lakers anthem.
That's right. Los Angeles, stand up.
Bar slips off.
Pump on goal.
6'8" footer.
You know how we do it.
Two-man game.
It's the Lakers time.
Sasha on the move.
Yeah.
Beautiful. He finds Rolly for the easy one.
2009. It's Lakers time.
C'était le Lakers Anthem, hein, un hymne aux Lakers, vous avez compris. On a commencé notre dossier Lakers en évoquant Magic, mais si vous êtes né dans les années 2000, voilà. Non, je me trompe de chronique. Pardon.
Oh, c'est bien aujourd'hui.
Oh là là. Vous écoutez Money Time sur Radio Graphite 94.9, la meilleure émission artisanale sur le basket, hein, normalement. Ouais. Réalisée maison avec des produits frais, mais par des mains sales et visiblement des cerveaux un peu fatigués. Et il est temps d'ouvrir notre dossier spécial, donc consacré à ce qui est sans doute le club le plus bling-bling de la NBA, direction la Californie, Hollywood, le soleil et les stars. Et les stars, il va y en avoir au mètre carré, hein, plus que deux travailleurs déprimés dans une rame de la ligne B. Welcome to Lakers World. Mais quand on aborde une institution aussi imposante que la franchise mythique de LA, on doit faire des choix. Le nôtre est davantage d'évoquer les Lakers à l'aube des années 80. Pas de George Mikan, de Jerry West, de Will Chamberlain, hein, et dans une moindre mesure de Kareem Abdul-Jabbar. Donc, et avant d'évoquer d'autres noms pas moins prestigieux, Bruno va essayer de vous faire aimer les Lakers.
En toute impartialité.
Non, de vous résumer l'histoire de cette franchise en 5 minutes. C'est parti, c'est à toi Bruno.
Bon, on va essayer de vous parler de l'histoire des Lakers de Los Angeles en 5 minutes. Alors comment vous dire ? Bon, déjà, il va falloir être rapide, donc je vais essayer de parler vite. Et ensuite, on va commencer, comme tu l'as dit, aux années 80. Bon, les Lakers, c'est vrai que c'est une franchise qui est une des plus emblématiques de la NBA, avec un parcours marqué par des périodes à la fois de domination, des rivalités légendaires, à la fois en interne, parce qu'il y a eu Kobe, Shaq, qui était une rivalité assez légendaire en interne des Lakers, et en externe, notamment avec les Celtics ou les Kings, qui pourraient en parler. Des joueurs iconiques, des reconstructions, toujours audacieuses, souvent financièrement assez osées. Et puis donc, je vous propose de faire un résumé rapide des grandes époques, en essayant de les distinguer, qui ont façonné les Lakers, en commençant donc par les années 80. Donc c'est plutôt l'ère du Showtime qu'on définit entre 80 et 91, où là c'est vraiment la domination des Lakers. En 80, comme tu l'as dit, un jeune joueur qui s'appelle Magic Johnson arrive aux Lakers et ils remportent leur premier titre depuis 1972. Avec donc la performance historique que tu as déjà citée, 42 points, 15 rebonds, 7 passes. Le Showtime, c'est sous la direction de Pat Riley. Les Lakers, ils dominent les années 80 avec un jeu spectaculaire et un run and gun porté par Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jim Worthy et Byron Scott. Ils obtiennent 5 titres en 9 ans, donc 80, 82, 85, 87, 88 et 8 finales en 10 ans sur cette période. Ouf. Et c'est donc
intérêt à aimer les Lakers à l'époque.
C'est la grande rivalité avec les Celtics qui entre deux arrivent à en prendre. Donc les duels entre Larry Bird et ses Celtics de Boston deviennent légendaires. Et on se rappelle, il y a notamment la finale de 1984 remportée par Boston en 7 matchs. Arrivent ensuite des années de transition. Donc c'est plutôt une période 91-96, avec donc la fin d'une ère et la défaite donc en 91 des Lakers contre les Bulls de Michael Jordan. Et donc qui marque le début par contre de la domination des Bulls sur la NBA. Et des départs clés, la retraite de Magic Johnson en 91 en raison du VIH, puis de Kareem Abdul-Jabbar en 89, et aussi de Pat Riley. Donc il y a vraiment un enchaînement de départ, et les Lakers peinent en play-off, et ils ratent même les play-offs en 94. Un début de renaissance entre 96 et 99 avec les arrivées de Shaq et Kobe. En 1996, donc Jerry West, qui est le manager général à l'époque, recrute Shaquille O'Neal.
Des gens des Lakers, hein, Jerry West.
Voilà, le logoman. Et il draft Kobe Bryant en échange de Vlade Divac. Les débuts sont difficiles. On voit qu'il y a un potentiel énorme, mais bon, l'équipe manque d'expérience et échoue en play-off. La vraie dynastie se met en place à partir de 99 jusqu'à 2004 avec trois titres consécutifs. 99, c'est l'arrivée de Phil Jackson qui transforme les Lakers en machine à gagner. Un tripit, 2000-2002, avec chaque MVP des finales en 2000, 2001 et 2002. Et en 2004, par contre, c'est le début de la fin, les tensions internes qui commencent à ressortir et la défaite en finale contre les Detroit Pistons. L'arrivée de Pau Gasol ensuite en 2008 marque le retour au sommet. 2008, l'arrivée de Pau Gasol qui reforme un bon duo, un duo plutôt redoutable même avec Kobe. Deux titres consécutifs. Et avec là, cette fois, c'est Kobe qui est MVP des finales en 2009 et 2010. Et ils sont éliminés par contre en 2011. Par les Dallas Mavericks qui sont champions à l'époque.
Avec et bon,
en 2018, on va dire que c'est depuis 2018, c'est l'après Kobe et c'est l'ère LeBron James. Donc en 2016, c'est la retraite de Kobe Bryant après une saison qui est quand même un peu longue.
Ouais, le Farewell Tour.
Le Farewell Tour. Et en 2018, c'est l'arrivée de LeBron James qui relance les espoirs des Lakers. En 2020, il y a entre guillemets un titre NBA.
Non,
pas dans la bulle d'Orlando.
Dans la bulle. Très belle année cette année.
Avec LeBron James, MVP des finales, et donc un hommage vibrant à Kobe, qui est décédé donc, en janvier 2020. Et depuis 2023-2025, là, on est toujours dans la reconstruction permanente avec des arrivées, notamment Luka Doncic cette année, 2025. Voilà. Et bon, ça continue de construire. Donc pour conclure, les Lakers ont marqué l'histoire du basket. Avec leur capacité à se réinventer, des joueurs légendaires, Magic, Kobe, Shaq, LeBron, des rivalités intenses. Et malgré des périodes de doute, ça reste une franchise mythique, toujours en quête de nouveaux titres. Et pour finir, on va faire une petite question ouverte, on verra si on répond dans le cours de l'émission. Quel est, selon vous, le joueur ou le moment le plus marquant de l'histoire des Lakers? Pour moi, c'est le logoman de la NBA, c'est-à-dire Jerry West, qui est un ancien joueur des Lakers et ensuite un dirigeant, et qui est aussi l'emblème de la NBA.
Moi, je trouve que leur meilleure saison, c'était 2004.
En toute objectivité également.
Non, je pense que le meilleur joueur de tous les temps, je pense que c'est Kobe quand même. Mais pour moi, Magic, enfin, pour ceux qui ont connu Magic Johnson.
Ils en ont eu tellement. Ils en ont eu tellement.
Chamberlain aussi, qui est passé.
C'est dur de faire un classement.
Ouais.
Parce que oui, après Magic reste quand même un énorme joueur pour les Lakers.
Il y a des coachs, Magic,
t'as des coachs emblématiques. T'as Pat Riley, Phil Jackson, par exemple.
Ok, alors justement, tiens, on va rebondir un peu sur ça. On a commencé notre dossier donc en évoquant Magic, mais si vous êtes né dans les années 2000, ça arrive. Pas autour de cette âme, mais non.
Tout le monde.
L'incarnation même des Lakers, hein, sa légende absolue, c'est forcément Kobe Bryant, alias le Black Mamba, notre historien du sport diplômé de UCLA en monétaïmologie.
Non, je vais pas à Los Angeles.
Non. Va nous présenter celui. Bon, tu vas quand même nous présenter celui qui restera sans doute et encore pour longtemps le deuxième plus grand arrière de temps. Derrière Ishan Ernest Michael Jordan. Mehdi, c'est à toi pour Kobe, le Laker ultime.
Ouais, Kobe, en fait. Je dis toujours j'aime pas, mais lui quand même il te fait rêver quoi. Alors il faut savoir que Kobe Bean Bryant est né le 23 août 78 à Philadelphie en Pennsylvanie. Il adorera jouer contre Philadelphie et surtout aller à Philadelphie toute sa vie. Parce qu'à chaque fois qu'il arrivait, il se faisait huer. Et à chaque fois il en plantait 30 ou 40 quoi. Il adorait ça revenir à Philadelphie. Donc il est le fils de Joe Jelly Bean Bryant. Alors c'est important parce que c'est un ancien donc, joueur de la NBA. Et quand Kobe a 6 ans, son père s'extrade en Europe où il va jouer une grande partie de sa vie en Italie où la famille s'installe. C'est là que Kobe apprend le basket, donc le basket européen. Mais il apprend aussi à parler italien et espagnol et un peu le français car son père a joué aussi à Mulhouse. Donc Kobe a fréquenté les salles françaises. Très tôt, Et là, il a bon goût quand même. Il idolâtre Michael Jordan et s'entraîne sans relâche déjà très jeune, souvent seul. À 13 ans, sa famille revient aux États-Unis et Kobe s'impose comme une star. Il arrive au lycée de Lower Merion High School et ses performances sont si impressionnantes qu'il décide de sauter l'université pour rejoindre directement la NBA, un choix très rare à l'époque. Donc en 96, à seulement donc 17 ans, il se présente à la draft et il est pris par les Charlotte Hornets qui le sélectionnent en 13e position. La draft 96, elle est énorme quand même. Ouais. Le premier, c'est, on revient sur Philadelphie, c'est Allen Iverson. Et c'est une très bonne cuvée. Donc dans cette cuvée, il y a quand même Stephen Marbury, Marcus Camby, Ray Allen, Steve Nash, Peja Stojakovic, Antoine Walker. Et il y a l'un des plus grands joueurs qui a gagné 4 fois le titre de meilleur défenseur qui n'est même pas drafté cette année-là. Ben Wallace n'est pas drafté.
Ah, c'est fou.
Donc, mais alors, il est pris par les Charlotte Hornets et vous allez me dire, mais il a déjà joué pour les Charlotte Hornets ? Non, jamais. Parce qu'il y a un accord secret, en fait, entre Charlotte et les Lakers. Il faut savoir que quelques minutes après, c'était déjà fait. Charlotte envoie Kobe à Los Angeles pour récupérer un super pivot qui est Vlade Divac, c'était quand même un énorme joueur.
C'est un très bon joueur.
Donc Charlotte pense avoir fait une énorme opération là, dans le trade. Ils se sont dit, ils sont fous Los Angeles. Mais ce transfert avait été préparé en coulisses par Jerry West, qui voyait déjà le potentiel phénoménal du jeune Bryant. Selon certains témoins, les Hornets n'avaient jamais vraiment voulu de Kobe. Ils l'ont simplement choisi sur demande des Lakers pour récupérer Divac. Et pour finaliser l'échange, en fait, un dirigeant de Charlotte a quand même avoué plus tard « Nous n'avions aucune idée ou intention de le garder. On ne savait même pas qui c'était vraiment. »
Mais je crois qu'il s'est fait que des entraînements avec les Lakers.
Avec les Lakers, ouais.
Enfin, c'est là que tu vois que Charlotte Hornets, c'est une équipe de merde. Aucun refaire, les gars.
En fait, donc Jerry West, le logoman de la NBA, avait vu Kobe lors d'un workout privé à Los Angeles. Résultat, il aurait été tellement impressionné qu'il avait déclaré « C'est le meilleur joueur de 17 ans que j'ai jamais vu de ma vie. Ce gamin est spécial. » Par contre, sa première année, donc ses débuts sont très timides. Il passe beaucoup de temps sur le banc. Donc, sur le workout, là, sur l'été, il bosse comme un taré. Il bosse vraiment. Il a vu ce que c'était la NBA. Il se renforce musculairement et ainsi de suite. Et dès sa deuxième saison, il devient le plus jeune titulaire d'un All-Star Game. Le mec, il faisait pas semblant. Il travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Son style spectaculaire, ses dunks et son mental de compétiteur attirent rapidement l'attention du public. Il commence à se forger une réputation de perfectionniste obsédé par le travail. Bien sûr, il n'y arrive pas tout seul et il a quand même le renfort du grand, du beau, de l'énorme Shaq, hein, troisième meilleur pivot de tous les temps, on se le remémore. Et surtout, il y a une arrivée incroyable qui est Phil Jackson dans sa vie. Évidemment. Comme entraîneur. Donc Kobe et Shaq forment un duo dévastateur. Les Lakers remportent 3 titres NBA consécutifs, donc 2000, 2001, 2002. Et Kobe devient une superstar mondiale, connue pour ses moves élégants, son intelligence de jeu et son mental d'acier. Mais en coulisses, ça se passe pas super bien entre lui et le Shaq. Ils ont une vie, ils ont une perspective de vie complètement différente. Ouais. Kobe est un acharné du travail. Shaq, il passe son temps à rigoler. Et lui, il veut juste passer un super moment. Donc deux égos immenses dans la même équipe, c'est pas simple. Et après une défaite, il y a eu cet échange via un journaliste interposé où Shaq dit « Ouais, il faut que Kobe me passe plus la balle. » Et à quoi Kobe a répondu « Peut-être qu'il devrait se mettre un peu plus en forme et je lui donnerai le ballon. » Waouh, chaud les gars, chaud. Et en 2004, après la défaite en finale face à Détroit, Shaq quitte les Lakers, Kobe devient le visage unique de la franchise. Sans Shaq, Kobe porte les Lakers sur ses épaules. Il enchaîne les records individuels. En 2006, il inscrit, lors de ce fameux match contre Toronto, 81 points, le deuxième plus grand total de l'histoire de la NBA, derrière les 100 points de Wilt Chamberlain. Et il gagne 2 titres de meilleur marqueur, 2006 et 2007. Mais c'est pas assez, ils n'y arrivent pas. Les Lakers peinent à gagner collectivement. Kobe est critiqué pour être trop individualiste. Pourtant, il mûrit, apprend à faire confiance à ses coéquipiers et reste fidèle à Los Angeles. En 2008, il y a l'arrivée de Pau Gasol. Et ça va devenir très vite un très bon ami. Ils vont s'entendre comme deux doigts de la main. C'est un pivot espagnol. L'alchimie est immédiate. Les Lakers retournent en finale 3 années de suite. En 2008, ils perdent contre les
Celtics.
Voilà, de Boston. Et en 2009, ils gagnent contre Orlando. En 2010, ils prennent sa revanche contre Boston avec un titre soulevé au TD Garden, ce qui était l'un de ses plus beaux triomphes. Kobe est sacré MVP des finales 2 fois de suite. Il devient aussi MVP de la saison régulière 2008, une récompense longtemps attendue. En parallèle, via USA, il remporte 2 médailles d'or olympiques. Et donc, Pau Gasol, qui était son énorme pote, il faut savoir qu'en finale olympique, il y a un États-Unis-Espagne. Ouais,
ouais. Et sur la qui première est considéré action... comme le plus beau match de basket international de tous les temps.
Ouais. Et sur la première action, il a annoncé à tous ses potes que Pau Gasol allait venir faire un bloc pour son coéquipier et qu'il allait lui rentrer dedans. Et l'image, elle est incroyable. Si vous pouvez aller voir ça, sur la première action, il défonce son pote, quoi. Il s'arrête pas sur le bloc, il le fout sur le cul. Et en le regardant de travers, hein, genre de dire on est amis dans
Black Mamba,
mais pas sur le terrain. Ensuite, les années commencent à passer, son corps le trahit. En 2013, une rupture du tendon d'Achille sur un match marque un tournant, mais dans une scène légendaire. Kobe tire ses deux lancers francs blessés avant de quitter le terrain, symbole de sa résilience. Malgré plusieurs tentatives de retour, les Lakers s'enfoncent dans les bas du classement et en novembre 2015, Kobe annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison. Son dernier match, le 13 avril 2016, est inoubliable. Il inscrit 60 points contre Utah. C'était Utah déjà à l'époque, sous les acclamations du Staples Center. Fin de carrière parfaite où il prend le micro et il fait tout un discours et finira par ces deux mots, Mamba out. C'était sa vie après le basket, Kobe se consacre que à sa famille. Il a des nouveaux projets créatifs et il fonde Granity Studios sur lequel, en 2018, il remporte un Oscar pour son court-métrage d'animation Dear Basketball, inspiré de sa lettre d'adieu au sport. Et il devient aussi un mentor pour les jeunes, notamment pour sa fille Gianna, passionnée de basket comme lui. La tragédie intervient le 26 janvier 2020. Kobe Bryant, sa fille Gianna et 7 autres personnes meurent dans un accident d'hélicoptère à Calabasas, en Californie. Le monde entier est sous le choc. Des millions de fans pleurent, non seulement le joueur, mais aussi l'homme, le père, le modèle. Son héritage restera immense. 5 titres NBA, 18 sélections pour les All-Stars, 2 maillots retirés. Unique joueur à avoir ça sur la NBA. Alors le 8, pourquoi ? Il n'y a pas vraiment d'explication, parce que son numéro au collège était le 33, mais déjà retiré pour Karim Abdul-Jabbar. Et le 24, avant le collège, il dira « le 8, avec le 8, c'est toute ma maturité ». C'était un exemple de discipline, de passion et de mentalité du Mamba, celle de jamais cesser de progresser. Plus qu'un joueur, Kobe a laissé une philosophie de vie. Ce n'est pas la victoire qui compte, mais l'effort constant pour être meilleur chaque jour. Souvent résumé ainsi, les héros vont et viennent, mais les légendes sont éternelles. Kobe Bryant en est la preuve vivante et éternelle.
Bravo, Mehdi.
Ouais. Ça fait un sacré what if, c'est sûr, sa fille, tu sais, parce que la WNBA, lui, il était déjà fan de WNBA. Ah, oui, ils allaient voir tous les matchs avec sa fille. Peut-être plus.
Ouais, prendre le relais.
Qui sait. Devenir une Bryant, qui aurait joué en WNBA.
Mais tu sais, pour faire l'écriture, là, en fait, j'ai regardé plein de vidéos, mais c'était quand même un sacré joueur. Hein. Et c'est un mec qui n'avait pas peur. Il faut savoir quand même que c'est le joueur qui a raté le plus de tirs dans toute la NBA.
Mais mentalement,
mais s'il fallait en prendre un, il le prenait tout le temps.
Le dernier tir du match, il fallait.
Ouais, puis il y a des exploits incroyables, des qualités athlétiques exceptionnelles, puis c'était beau à regarder. Hein. C'est un peu comme Jordan, c'est vrai qu'il a calqué son jeu sur celui de Jordan, hein, clairement, quand on voit les grosses similitudes. Mais le côté aérien, cette capacité, puis ce courage à aller rentrer dans le lard des plus gros, on se souvient de certains dunks sur Dwight Howard notamment.
C'est marrant parce que, tu vois, il est numéro 8 de 96 à 2006, donc pendant 10 ans, et il est 24 de 2006 à 2016. Et en fait, quand il change de numéro, t'as l'impression qu'il a compris qu'il fallait qu'il joue avec les autres.
Des clics.
En fait, pendant 10 ans, il a joué en étant coéquipier d'eux, mais après les 10 années de là, il a vraiment porté les Lakers sur ses épaules. Il faut regarder ses lignes de stats, ses moves, il avait le ballon tout le temps sur toutes les actions, et il touchait le ballon. C'était vraiment un super leader. C'était un leader, c'était...
Un très, très grand joueur.
Yes.
OK. On va passer à notre dernière rubrique, le Star System Made in LA. De Magic à Doncic, en passant par Shaq, Kobe et LeBron, les Lakers, c'est un casting à faire passer Ocean Eleven pour celui de Plus belle la vie. Les stars à Long Beach, c'est comme les truands à Little Italy dans les années 60, ça fait partie du décor. Sur le terrain et autour, hein, Nicholson, Snoop Dogg, DiCaprio, les Red Hot Chili Peppers, là que vous entendez, ou Kendrick Lamar, une équipe des Lakers sans superstar, c'est tout bonnement impossible. Alors retour sur les grandes légendes, souvent en duo, on a eu Karim Abdul-Jabbar, Magic et Worthy, Shaq et Kobe dont tu nous as parlé, puis Kobe et Pau Gasol, LeBron et Anthony Davis qui ramènent quand même un titre, hein, puis LeBron et maintenant Luka Doncic. Les titres des Lakers ont bien sûr été glanés avec des joueurs de compléments fantastiques, hein, on pourrait évoquer C. Green, Byron Scott, Glenn Rice, Lamar Odom, Derek Fisher ou Robert Horry, dont tu as parlé. Mais les clés de la décapotable ont toujours été confiées aux... dans les poches, en tout cas mises dans les poches des Hall of Famers. Recette d'un succès dans la plupart des cas, les Lakers ont rarement la patience d'attendre qu'un choix de draft s'y développe. Même si Magic, James, Worthy ou Kobe sont nés plus ou moins in utero. En général, il faut un bon gros transfert et souvent un bon pigeon, coucou Nick Harrison, pour booster un effectif qui dès lors va être retravaillé au service des divas. Alors il existe des exceptions, hein, notamment l'armada de stars de la finale perdue contre les Detroit Pistons en 2004, Kobe, Shaq, Malone et Payton, hein, notamment, ou le gros bust des Lakers version Kobe, Steve Nash et Dwight Howard, hein, qui s'en souvient. Mais globalement, les duos, ce qu'on appelle les one-two punch ou les big three, les Lakers ramènent une bague à la maison, c'est quasiment assuré. Messieurs, cette année, qu'est-ce qu'on peut attendre des Lakers?
Ils sont déjà très bien partis parce qu'avec la blessure de James, on pouvait se dire « Ah, ça va être compliqué, Luka qui joue pas certains matchs » et en fait, t'as des joueurs qui prennent leur lait et tu dis « Rives, incroyable
!» Sort de nulle part.
Shimura qui fait ses stats à tous les matchs et Jackson Hayes, le pivot là, qui est tout fin, lui c'est une pile.
Ayton a démonté Portland, il était content.
Ouais, bah oui c'est ça. Bah, il faut en profiter parce que Ayton, c'est 8 matchs dans l'année. Donc,
c'est clair. Il a fait donner.
Il en a fait un, ouais, il en fait un.
Il pourrait peut-être lui dire attends les playoffs, mais attends.
Garde-en sous le coude.
Ouais, c'est ça. Donc, mais je trouve que c'est une très bonne surprise par rapport aux absences. Et ils ne sont pas désagréables à voir jouer.
Non, c'est vrai. Maintenant, la question qu'on peut se poser, je ne sais pas si vous avez le même ressenti aussi. L'année dernière, quand Doncic est arrivé, il y a eu une espèce d'effet aussi. On s'est dit, waouh, les Lakers, en fait, font peur à tout le monde. Puis finalement, c'est retombé. On a vu les limites, notamment en défense. Hein. Doncic, Reeves, c'est quand même pas connu pour être des grands défenseurs. Mais on a quand même cette armature avec des grosses stars. Le développement des Lakers façon star system, ça vous évoque certaines choses, les gars? Ou certains...
Ouais, mais normalement, tu vois, le star system, c'était un extérieur avec un intérieur. Tu vois, il y avait une grosse pointure à l'intérieur, une grosse pointure à l'extérieur. T'as toujours eu ça. Shaq, Kobe et Pogazol. T'avais LeBron James, Anthony Davis. Tu vois, t'avais. Et là, les stars sont quand même beaucoup sur les extérieurs. Donc, il y a pas de grosse star à l'intérieur. Mais je pense de toute façon que leur jeu dépend de Doncic, mais à 60% ça va être ça. On peut pas dire que je le porte dans mon cœur, mais alors c'est un super joueur. Et depuis le début de la saison, je trouve qu'il râle pas trop contre l'arbitrage. Et il arrive à rester dans ses matchs. Après, est-ce que LeBron va revenir à un moment? Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop
comment,
de
blessures? Comment va rentrer LeBron aussi dans cette nouvelle
est-ce qu'il va cette nouvelle façon de jouer numéro 2? Est-ce que c'est ça?
Oui, ça, je pense qu'il va accepter. Oui, parce qu'il est tout sauf bête, LeBron.
Si bon, a priori,
le but c'est d'aller gagner encore une bague, quoi, parce qu'il en aura gagné que, entre parenthèses, ne me tombez pas dessus, que 4. C'est toujours une bonne Kobe. Oui.
mais c'est vrai que...
3 de moins que Roberto, oui.
Et de toute façon, en plus, dans leur structure, ce que tu disais, je crois qu'ils n'ont même plus de tour de draft, en fait. Les Lakers, ils ont tellement échangé.
Mais alors, c'est ça qui est...
Ils n'ont jamais de tour de draft.
C'est ça, c'est qu'on se dit toujours, ils sont plombés parce que leur façon de courir après les stars, bah, ça implique des sacrifices sur la draft, etc. Mais on ne sait jamais par quelle pirouette ou alors par quelle aide. Coucou Adam. Il y a quand même des trucs un peu c'est pour ça qu'ils agacent aussi les Lakers.
C'est quand même
ils n'ont pas la manne financière et finalement ils se retrouvent à faire un trade qui va leur permettre d'être...
Mais tu vois, au niveau valeur financière, c'est quand même l'équipe qui... Devant, t'as les Warriors. C'est 11 milliards de dollars la valeur des Warriors. Et je crois que derrière, c'est juste 10, les Lakers.
C'est 10.
C'est 10 milliards, quoi. Et parce que c'est ça, c'est une équipe, c'est une franchise.
C'est comme le Real Madrid. En fait, on pourrait les comparer un peu au Real Madrid, non, les gars, un peu au foot, non?
Je sais pas si c'est pareil.
Ouais. Je sais pas si c'est, si c'est comparable.
Ce système, cette façon de construire.
Ouais, ou au PSG des années.
Des débuts des Qataris.
Sauf que ça marchait pas.
Ça marche maintenant parce que justement, ils ont viré les stars.
Mais comme quoi, ça
marche. Là, peut-être que justement, regarde, les matchs leur donnent peut-être raison. Ou quand tu dis, Doncic n'était pas là, LeBron n'est pas là, et t'en as certains qui s'affirment justement.
Ok, pour clore cette émission, il nous faut un buzzer beater. C'est parti, hein, on t'envoie le buzzer beater, Buffa. Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range three, and it's good! Alors aujourd'hui, notre buzzer beater, le thème, ce sera le Showtime Basket Total, chorégraphie et spectacle. S'il existe plusieurs écoles dans le basket, hein, l'attaque en triangle de Phil Jackson, le run and gun des Suns, la défense des Pistons, par exemple, ou la loose à Washington, notre technique. Le basket pratiqué par les Lakers dans les années 80 avait un nom, le Showtime, un architecte, Pat Riley, dédicace, et un mécène, Jerry Buss. Messieurs, ça évoque quoi pour vous le Showtime? Allez, c'est parti.
Ouais.
Bruno, tu
Magic.
Commences.
Magic. Moi, c'est le nom qui me vient tout de suite. Mais c'est vrai que moins d'images aussi. Enfin, c'est une époque où tu voyais moins la NBA. Donc
moins,
moins de highlights, mais bon.
Après, t'as tous les gros dunks de Vince Carter, T-Mac.
Même Jordan, t'étais déjà dans le Showtime aussi.
Ouais, Dr. G, ainsi de
suite. Ouais, mais le Showtime, 90, la manière de jouer, c'est vrai, on a eu des joueurs spectaculaires. Sauf que les Lakers, il fallait gagner en étant séduisant pour le public, quoi, en faisant du beau. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est que le Showtime, il s'appuyait sur une très très bonne défense. En fait, des joueurs comme Abdul-Jabbar, forcément, mais AC Green, Byron Scott étaient des très très bons défenseurs. James Worthy. Dont on parle pas beaucoup parce que c'est un mec super discret. Il a été drafté un an avant Jordan, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'était une espèce de prototype de version bêta de Kevin Durant, James Worthy. Si vous avez l'occasion de le voir, on le reconnaît facilement avec ses lunettes, ses Google. Ouais. Et ils avaient quand même toutes les armes. C'était des très très bons défenseurs et se projetaient très très vite vers l'avant. Il y a pas de. On dit souvent que l'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Si les Lakers ont gagné à cette époque-là, le Showtime, c'est parce qu'ils s'appuient aussi
sur... Une grosse contre-attaque,
ouais. Ouais, parce qu'ils affrontaient quand même les Pistons de Isaiah Thomas, de Joe Dumars, Bill Laimbeer, Rodman, etc. Il fallait quand même avoir du répondant en termes de physique pour pouvoir le faire.
Ouais, mais après, comme tu dis, tu gagnes tes titres avec la défense. Alors oui, tu peux aller faire du Showtime, mais du Showtime, t'en as combien de fois dans le match? Allez, t'en as 5-6 fois. C'est comme quand tu regardes les top 10 à la télé en ce moment. Mais la grande partie d'un match, c'est pas le Showtime. Ils ont essayé d'amener le Showtime pour vendre la NBA. Et dans les droits des années 90, c'est vendre leur NBA au monde entier. Quand on dit qu'on voyait pas beaucoup de matchs dans les années 90, c'était ça. Mais c'était souvent les mêmes équipes qu'on voyait. Dans les années 90, il y a plein d'équipes que tu voyais pas. Et pourtant, il y avait des joueurs extraordinaires. Et aujourd'hui, les images ressortent sur les highlights. Mais à l'époque, tu les voyais pas.
Ou tu vois les mêmes actions tourner en boucle, quoi.
Faut pas oublier que Showtime, c'est lié aussi, c'est la Californie, quoi. C'est le soleil, c'est la mer, c'est Los Angeles.
C'est un style de vie, c'est la rap,
Hollywood,
c'est tout, c'est le
strass, c'est les...
On a aussi la mentalité de Pat Riley, on l'a évoqué, hein. Le Showtime, c'est Magic et Pat Riley, c'est vraiment une façon de jouer.
C'est jouer beau, c'est jouer beau.
Alors que Pat Riley derrière, c'est marrant, hein, c'est un peu paradoxal, il est parti à New York, il a copié un peu le basket des Pistons à New York. Miami, c'est pareil, c'est une équipe quand même qui a toujours vendu... plus de défense que d'attaque.
T'as vu comment ça joue cette année, Miami?
Oui, ça joue à 100 à l'heure. Ouais. C'est pas lui qui coach. Ils ont décidé sur...
C'est un début de Showtime.
ça joue sur un pace plus rapide. Ouais. Et en tout cas, voilà, le Showtime, c'est vraiment une époque, un basket, qui est peut-être un peu révolu aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans le star system. Des
après, ouais, il y a aussi, au-delà des Lakers, quand même, ils choisissent une ville. Quoi. Les joueurs, ils veulent jouer à Los Angeles. Ouais, quoi.
C'est
à New York ou Los Angeles, tu vois.
C'est
les gros marchés, c'est la ville, voilà.
On a parlé des stars
au toit. T'as le choix de jouer entre Los Angeles et Indiana. Ah, bon,
voilà.
Choisis Los Angeles. Un peu plus de soleil à Los Angeles, quoi.
Quand même.
Okay,
mais après, t'en as d'autres aussi du Showtime. Le Showtime peut venir par la défense aussi. Parce qu'ils ont aussi beaucoup valorisé tout ce qui était contre. Les contres, c'est spectaculaire, ça te permet aussi d'avoir une contre-attaque, hein, un joli contre.
Ouais, évidemment. La défense, c'est la lampe de rancement. Il est temps de terminer cette émission, messieurs, je vous remercie. La prochaine émission aura lieu le mercredi, donc 19 novembre. Moi, je voudrais faire juste une petite dédicace à mon cousin Anthony, qui est un fan des Lakers et qui écoutera, à mon avis, certainement l'émission. Donc, gros béco à mon cousin Anthony. Et à Florent aussi, son frère, mon autre cousin. Les gars, vous avez un petit coucou à faire? Il y a 30 secondes.
Bah, cette nuit, il y a un petit Wemby, Luka Doncic. Là, les Spurs rendent visite
à Los Angeles,
justement. Au Lakers, justement. Donc ça peut être un joli match.
Ok, bah, parfait. Merci en tout cas à tout le monde. Et merci à Buffa pour la technique. Désolé encore pour le début.
Ouais.
Je lui mettrai une claque.
Allez.
Allez, ciao tout le monde.
Salut, poteau.
Salut.
À bientôt.